Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. C'est vrai que quand à moins le quart, on voyait encore personne, on s'est dit « Ah, mais il n'y aura personne ». Et si tout le monde est venu, et c'est vraiment chouette de pouvoir passer ce temps avec vous tous, ce dimanche matin, pour louer notre Dieu, pour étudier sa parole tous ensemble. C'est vrai que ces temps d'été sont parfois des temps de vacances, mais j'espère que ce sera pour nous pas un temps de vacances spirituelles, au contraire, qu'on puisse mettre à profit ce temps-là pour continuer à louer notre Dieu. Ça fait maintenant un certain temps, que ce soit par les études bibliques ou par les prédications du dimanche matin, qu'on étudie les psaumes, et l'on voit certains points très importants qui reviennent beaucoup. Et l'un des premiers à nous venir en tête est bien entendu l'importance de la prière et des moments qui sont passés avec Dieu. On a vu beaucoup d'hommes se tourner vers Dieu en toutes circonstances. Et dans ce psaume 86, on voit David qui vit l'un de ces moments où il se tourne vers Dieu. Alors c'est un psaume qui contient de très nombreuses choses. Et je m'en excuse d'avance, mais on ne pourra pas voir chacun des petits aspects précis de ce psaume. Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles on va passer plus vite, d'autres sur lesquelles on va plus se pencher. Et si ça crée chez vous une certaine frustration, utilisez cette frustration pour aller lire encore le psaume 86 et pour prier à Dieu que dans sa bonté, dans sa grâce, il vous révèle des choses supplémentaires. Je vous propose de lire ce psaume. Alors, est-ce qu'on a une zapette pour que... Donc, je vous propose à chacun de prendre le psaume 86. C'est important qu'on puisse le lire tous ensemble, donc n'hésitez pas à sortir les smartphones, personne ne vous jugera. Et si vous avez la Bible sur un smartphone ou alors votre Bible papier, et voilà, qu'on puisse tous l'avoir sous les yeux, qu'on puisse vraiment comprendre et saisir ce que Dieu a à nous dire par cette parole. Il faut savoir que la Bible, lorsqu'on écoute une prédication le dimanche matin, la lecture de la Bible, c'est la seule chose 100% vraie que vous allez entendre. Le reste, c'est des personnes qui ont travaillé, qui ont été à l'écoute de Dieu, mais la pure vérité, c'est la parole de Dieu. Prière de David. Éternel, prête l'oreille. Exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom. Car ta bonté envers moi est grande et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des arrogants s'attaquent à moi. Une bande d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, que ceux qui me détestent le voient et soient honteux. Car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Je vous propose de prier. Oui, Père, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour toute cette révélation que tu as faite. Tu nous donnes tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour pouvoir marcher dans ta vérité. Et ce matin encore, je veux te demander de nous donner à tous du discernement pour comprendre ce que tu as à nous dire, pour pouvoir le saisir pleinement et que ta parole puisse encore nous transformer afin que nous puissions grandir avec toi et que nous puissions marcher dans tes voies. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Je vous propose ce matin de découper ce texte en trois parties. La première qui ira du verset 1 au verset 7, qui est l'appel à Dieu. La deuxième partie qui ira du verset 8 au verset 13, qui est la grandeur de Dieu. Et une troisième qui sera un peu plus brève pour nous, qui est du verset 14 au verset 17, et qui est la demande de délivrance. Et on va essayer de voir plus en détail chacune de ces parties. Premièrement, l'appel à Dieu, verset 1 au verset 7. Alors, il se trouve que je suis prof de maths. Et l'analyse d'un texte n'est vraiment pas mon point fort. Là encore, on a surveillé le brevet. Quand arrivent les sujets de français et qu'on voit le texte, on se dit, ben, ils ont du courage ces jeunes, parce que je ne suis pas sûr que je saurais faire ce qu'il y a à faire. Mais pourtant, il se trouve qu'à certains moments, si on se penche un peu, si on se prête au jeu, si on essaie d'y accorder de l'attention, alors on arrive à faire ressortir certaines petites choses qui nous éclairent dans notre compréhension du texte. Et ici, c'est un peu ce que l'on va faire ensemble. Je vous propose de faire des parallèles entre certains versets dans leur construction ici. Tout d'abord, le verset 1 avec les versets 6 et 7. Donc on voit « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi car je suis malheureux. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse car tu m'exauces. » Ils commencent tous les deux par « Éternel, prête l'oreille ». Cette façon de s'adresser à Dieu m'interpelle. J'avoue que lorsque je prie, je ne commence jamais par une expression telle que « prête l'oreille » ou « penche ton oreille vers moi » ou « tends ton oreille vers moi » puisqu'on retrouve aussi ça dans d'autres psaumes. Et pourtant, ça semble être une façon tout à fait normale de s'adresser à Dieu. En effet, on retrouve des formules similaires dans pas moins de 20 psaumes. Et cette façon de s'adresser à Dieu est couramment donc utilisée à ce moment-là. On voit notamment dans les psaumes 17 et 31 que c'est une façon de demander à Dieu d'incliner l'oreille pour accueillir favorablement une requête. Si on le traduisait dans un français un peu plus actuel, on pourrait le traduire par « Mon Dieu, entends ma voix et réponds favorablement à ma prière. » Et je me suis vraiment demandé si lorsque je m'adresse à Dieu par la prière, est-ce que je considère comme un dû le fait qu'il va y répondre, ou bien est-ce que je le sollicite respectueusement, en lui demandant à ce que dans sa grâce, il accepte de prendre en compte favorablement ma requête. Est-ce que je replace Dieu à la place qui est la sienne, et est-ce que j'accepte de me rabaisser à la place qui est la mienne, ou est-ce que je me considère un peu comme un petit roi pour qui tout est dû, et qui exige d'être exaucé? La réponse de Dieu à nos prières est une grâce. C'est pourquoi David demande l'exaucement de sa prière. Il reconnaît par là la souveraineté de Dieu sur toute chose. Et Dieu ne répond pas toujours de la façon dont nous le souhaitons. David est confiant dans une vérité fondamentale. Dieu répond. Car il dit « Lorsque je suis dans la détresse, tu m'exauces ». Il sait que Dieu exauce parfois de la façon dont nous l'avons envisagé, mais aussi parfois par d'autres moyens qui sont les siens. Mais par contre, il y a une certitude dans tout ça. Dieu répond. Cette première partie nous montre aussi l'état dans lequel se trouve David. Un état de détresse profonde. Dans ces passages qui sont en bleu ici, on voit que David se dit malheureux et pauvre dans la détresse. Et que fait-il habituellement quand il est dans la détresse? Il prie Dieu. Quel réflexe avons-nous quand cela va mal? Quand nous sommes dans le trouble? Bien souvent, je le confesse, je cherche avec mon petit cerveau des solutions humaines qui me paraissent intéressantes et cohérentes avec ma vision très très limitée des événements qui sont autour de moi. Et je dois développer ce réflexe de faire d'abord appel à Dieu. Avant de chercher à trouver des solutions par moi-même, je dois m'en remettre à Dieu en toutes circonstances. Et là, on voit un effet cause-conséquence qui est très important. Pourquoi David fait appel à Dieu lorsqu'il est dans la détresse? C'est dit dans le texte, car Dieu l'exauce. Pourquoi est-ce que je respire? Car j'ai besoin d'oxygène. Pourquoi est-ce que je mange? Car j'ai faim. Je ne mange pas parce qu'il y a peut-être une vague éventualité pour que cela apaise ma faim et que comme j'ai tout essayé jusqu'à présent, ben il ne me reste plus que ça. Je mange parce que je sais que ça va apaiser ma faim. Lorsque David se tourne vers Dieu, il sait que c'est parce que Dieu l'exauce. David connaît la façon dont Dieu fonctionne. Il se tourne vers lui, car Dieu l'exauce. Tournons-nous, nous aussi, vers Dieu, pour lui remettre chacune de nos détresses, car Dieu nous exauce. Ensuite, on peut mettre en parallèle « Garde mon âme, car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui font appel à toi. » Dans les versets 2, les versets 4, et aussi on le retrouvera après dans les versets 13 et 14 de ce psaume, le mot traduit par « âme » vient du mot hébreu « nefesh ». C'est un mot qui apparaît 682 fois dans l'Ancien Testament. Et il n'est pas toujours traduit par « âme ». Il est parfois traduit par « personne »,« esprit », »,« cœur ». Et tout cela fait référence en fait à l'être intérieur, en opposition au corps matériel. C'est cette notion d'être intérieur. Et c'est très très important de le comprendre. Cette détresse dans laquelle se trouve David est bien plus qu'une détresse physique. C'est une détresse morale, peut-être même spirituelle. Et quand David demande que Dieu garde son âme et réjouisse son âme, il exprime une chose, c'est que son être intérieur est au plus mal et qu'il a besoin du secours de Dieu pour que cela aille mieux. À ce moment-là, on ne parle pas encore de l'exaucement de ce que David va demander à Dieu. Non, non. On parle du fait que Dieu peut, par sa puissance, réjouir l'être intérieur de son serviteur. Lorsque nous n'allons pas bien, nous devons remettre la situation entre les mains de Dieu. Mais nous devons aussi lui demander de réjouir notre âme, notre être intérieur. Dieu a la puissance de faire ça. Ensuite, David se nomme lui-même serviteur. Certaines versions traduisent par « je suis un de tes saints ». Et le mot qui est utilisé pour serviteur, on le retrouve en 2 Chroniques, chapitre 6, versets 41 et 42, et psaume 89, versets 4, 6 et 20. Et si je vous donne ces passages, c'est parce qu'ils éclairent la compréhension de ce que David veut dire quand il parle de serviteur. En fait, ce terme fait référence aux saints, S-A-I-N-T-S, c'est-à-dire aux hommes pieux. David, dans sa prière, se présente quelqu'un pour qui la piété est une chose qui le caractérise, une chose qui est essentielle. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour lui exposer nos demandes, regardons à notre cœur, regardons à notre vie, regardons à notre attitude, est-ce qu'on vit une vie qui est en accord avec cette proximité avec Dieu? Est-ce qu'on considère Dieu comme un papa gâteau qui va nous accorder tout ce qu'on lui demande? Ou est-ce qu'on prend la mesure de ce que ça représente comme conséquence dans notre vie? Alors attention, je ne dis pas, et ce n'est pas non plus ce que dit ce passage, que Dieu n'exauce que ceux qui mènent une vie pieuse, et que la piété serait finalement un moyen d'obtenir de Dieu l'exaucement de nos prières. Mais si on comprend réellement qui est Dieu, ce Dieu qui nous est présenté dans les versets 7 à 13 que nous verrons après, alors il faut qu'on s'encourage à vivre une vie pieuse, qui nous permettra à nous aussi de nous approcher de Dieu avec respect, en lui priant « Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi ». Et on arrive naturellement à la façon dont David s'en remet à Dieu, dans un état de confiance. Il dit « Je me confie en toi, c'est vers toi que je me tourne, tu es plein d'amour pour ceux qui font appel à toi. » David se tourne vers Dieu parce que Dieu s'attend à ce que nous nous tournions vers lui. C'est une chose naturelle et qu'on le fasse avec confiance. S'il y a un de vos proches qui vient vers vous et qui vous dit « Franchement, je suis absolument pas certain que tu puisses gérer mon problème, mais dans le doute, je te le demande quand même. » Est-ce qu'on aurait vraiment envie d'accéder à cette requête? J'en suis pas sûr. Quand David se remet en pleine confiance entre les mains de Dieu, il reconnaît par là que Dieu peut l'exaucer. Il reconnaît que Dieu l'aime et il reconnaît que Dieu fera ce qu'il y a de mieux, quelle que soit la façon dont Dieu agira. Lorsqu'on s'en remet à Dieu, faisons-le avec confiance en sa toute-puissance, en sa souveraineté, qui est très importante, et en son amour pour nous, qui a déjà été manifesté en Jésus-Christ. Et on arrive à cette déclaration centrale. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. J'ai presque pas besoin de commenter cette phrase, tellement elle parle fort. Elle révèle les sentiments, les attentes, les dispositions de cœur de David. David s'attend à ce que Dieu lui fasse grâce. On a l'impression que David lâche totalement prise. Il parle de façon simple, directe, vraie. Il ne demande rien de moins que Dieu lui fasse grâce. Lorsqu'on prie à Dieu, au-delà de toute formule, au-delà de toutes les façons qu'on a de s'exprimer, Est-ce qu'on en arrive, nous aussi, à ce moment de transparence et de vérité profonde, où on demande à Dieu de nous faire grâce? À ce moment-là, il n'y a pas de formule telle que « Dieu, tu sais, ça serait vraiment bien si… » ou « Dieu, j'apprécierais que… » qui sont parfois un peu des manipulations, des façons de dire les choses qui ne sont pas tout à fait authentiques. Est-ce qu'on en arrive à ce moment de transparence pure où on demande « Fais-moi grâce, Seigneur, car je prie à toi tout le jour. » David n'est pas du tout irrespectueux quand il dit ça. On l'a vu dans les versets précédents, et il ne donne pas d'ordre au Seigneur. Parce que justement, il dit « Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. » Il reconnaît la seigneurie de Dieu. Il n'exige pas, il demande. Mais il demande grâce, parce qu'à ce moment-là, il n'en peut vraiment plus. Demandons grâce à Dieu. Osons nous approcher de lui pour lui demander grâce, car là est la véritable solution. Et on arrive à la deuxième partie, versets 8 à verset 13. Pourquoi est-ce que c'est à ce Dieu, notre Dieu, que nous demandons grâce? Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom. Car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Nous intercédons auprès de notre Dieu, tout simplement parce qu'il n'y en a aucun autre comme lui. Sa grandeur n'a pas d'égal. On a commencé ce culte en chantant ce chant infiniment grand. Est-ce qu'on en est pleinement convaincu que Dieu est infiniment grand et que si nous nous adressons à lui dans nos requêtes, c'est parce que c'est le seul qui est infiniment grand? David nous rappelle avec puissance et profondeur que notre Dieu est unique et qu'il n'y a aucun Dieu qui est comme lui. Paul nous rappelle en 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 et 6, « En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, avec un petit dé, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. » Et en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, Paul appelle Satan aussi, le Dieu de ce monde. Effectivement, il y a des dieux avec des petits dés, mais notre Dieu avec un grand dé est bien supérieur à tout ce que les hommes ont nommé Dieu. Il y a toutes les puissances qui existent, y compris Satan, qui a déjà perdu le combat. Quelle que soit la cause de nos détresses, de nos épreuves, même si parfois cette cause est Satan lui-même, Dieu est bien plus grand que tout. Et ce verset 10 nous rappelle que lui seul est Dieu. Seul Dieu est capable d'accomplir des merveilles. Aucun Dieu, que l'homme a une grande facilité à se créer, ne peut accomplir des merveilles. Si quoi que ce soit prend dans notre vie la place de Dieu, même si c'est quelque chose qui est bon à la base, comme notre famille, comme notre église, si quoi que ce soit prend la place de Dieu, alors on a un vrai problème. Je vous recommande vraiment le livre « Les idoles du cœur » de Tim Keller, qui traite ce sujet en profondeur et qui est vraiment, vraiment très très bien écrit. Et on a besoin de réaliser, de comprendre cette grandeur de Dieu dans notre quotidien et dans chaque moment de notre vie. John Piper a dit « Nous croyons que même lorsque les gens ne le savent pas, ce dont ils ont le plus besoin, c'est la vision d'un Dieu incroyablement grand et l'intimité avec un Dieu infiniment grand. » C'est tout à fait pertinent pour toute chose dans la vie. Si nous voyons la grandeur de Dieu, nous ne serions pas si avides et cupides. Si nous voyons la grandeur de Dieu, nos yeux ne s'égareraient pas derrière des images et des pensées lubriques. Si nous voyons la grandeur de Dieu, nous ne nous fâcherions pas aussi facilement contre nos enfants. Si nous voyons la grandeur de Dieu, nous ne ferions pas la moue et nous ne serions pas blessés si facilement dans nos mariages. Si nous voyons la grandeur de Dieu, nous ne nous préoccuperions pas autant de notre apparence. Si nous voyons la grandeur de Dieu, nous ne passerions pas notre temps à regarder des émissions de télévision stupides, sordides et qui nous souillent. Si nous voyons la grandeur de Dieu, nous ne serions pas si découragés par le mal et la non-divinité de notre culture. Si nous voyons la grandeur de Dieu, nous ne céderions pas à notre appétit et ne mangerions pas avec excès dans l'ennui et la dépression. Et il y a sans autre effet bénéfique imprévu qui entrerait dans nos vies si nous pouvions garder la grandeur de Dieu à l'avant de nos pensées et être saisis par sa formidable réalité. En d'autres termes, comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, si nous voyons la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, nous serions changés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Fin de citation. Est-ce qu'on voit la grandeur de Dieu? Est-ce qu'on réalise la grandeur de Dieu? Est-ce que cette grandeur de Dieu a un impact pour nous dans notre vie, dans notre quotidien? Il est dit dans ce texte aussi, rien n'est comparable à sa manière d'agir. Dieu utilise des façons de faire et des voies que nous ne comprenons pas toujours. Parfois, Dieu nous révèle le pourquoi des choses, dans un laps de temps plus ou moins court. Mais il faut qu'on soit convaincu que si nous en remettons à Dieu, alors il utilisera toujours le meilleur moyen d'agir. Ce que Dieu fait est parfait, même lorsque c'est parfaitement incompréhensible pour nous. Dieu utilise les moyens qu'il juge les mieux. Et nous ne pouvons pas juger des moyens que Dieu utilise. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, tu accomplis des merveilles, toi seul tu es Dieu. David replace Dieu au-dessus de toutes choses, et toutes les nations viendront lui rendre gloire. Et pourquoi? Pas parce qu'il leur accorde ce qu'elles demandent, ces nations, pas parce qu'il accède à toutes leurs demandes les plus incongrues, non, non. On ne rend pas gloire à Dieu parce qu'on aimerait qu'il nous exauce de la manière qu'on aimerait. On rend gloire à Dieu car il est grand. La grandeur de Dieu est l'une des raisons pour laquelle nous rendons gloire à Dieu. Et on voit là aussi, c'est très intéressant, un regard prophétique qui est porté sur l'âge messianique. Cette vision de Dieu devant qui tous plieront le genou. Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Cette grandeur de Dieu nous pousse forcément à nous attendre à Dieu dans un premier temps pour notre enseignement. Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. Si on néglige de chercher à connaître les voies de Dieu, si on néglige de chercher son enseignement, alors on ne sera pas juste simplement des ignorants. Il y a forcément une influence qui s'exerce dans notre esprit et sur nos cœurs. Le Dieu de ce monde, Satan, ne cesse de chercher à faire l'éducation de l'humanité, mais selon ses principes à lui, selon ses critères de mensonge. Si nous voulons marcher dans la vérité, nous avons besoin de voir clair afin de rejeter à la lumière de la parole de Dieu ce qui provient des ténèbres. Prions que Dieu nous enseigne ses voies et craignons son nom. La notion de la crainte du nom de l'Éternel, c'est quelque chose que l'on voit en Proverbe, chapitre 1, verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Et le psaume 111, verset 10, va dans le même sens. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Ce qui est saint d'esprit, c'est de craindre Dieu et de marcher dans ses voies. Et ne pas le faire serait une pure folie. Et pour cela, tout comme David, il est important de demander à Dieu de disposer nos cœurs à cela. Nous avons besoin d'être intentionnels et explicites dans nos prières et d'être cohérents dans notre comportement. Nous voulons voir Dieu nous enseigner, prions-le pour cela et partons à la découverte de sa parole. Nous voulons qu'il nous donne de la sagesse, demandons-lui de disposer nos cœurs à craindre son nom et agissons en accord avec la vérité qu'il va nous enseigner. On ne peut pas dire qu'on craint son nom si on fait comme s'il n'existait pas lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans notre quotidien et des décisions dans notre vie. Si on craint réellement son nom dans une perspective biblique de ce qu'est la crainte, alors ne bafouons pas la réalité du sacrifice de Jésus-Christ pour nous et acceptons de nous laisser transformer par son esprit. David l'avait compris car il dit « J'honorerai toujours ton nom ». Est-ce que ça fait de David quelqu'un qui a jamais fauté ? La parole nous dit que non. Bien sûr que non, mais lorsqu'il a été mis face à son péché, il a exprimé un repentir sincère et l'a cherché à revenir dans les voies de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il agissait ainsi? Il le dit au verset 13, « Car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. » La version Darby traduit cette notion du séjour des morts par le Sheol profond. Dans la pensée hébraïque, le Sheol, c'est un lieu souterrain de poussière, de ténèbres, de silence et d'oubli. C'est un lieu sans aucune joie, dans lequel tous les hommes descendent. C'est un peu compliqué, mais c'est un lieu entre mort et jugement, c'est-à-dire dans l'attente du jugement de Dieu. Alors ça n'est pas le purgatoire, tel que les catholiques pourraient le penser, mais c'est un lieu entre mort et jugement. Et ce terme de Sheol peut aussi signifier la puissance de la mort qui se manifeste sur terre lorsque l'homme rencontre l'adversité, la maladie et la souffrance. Il y a donc deux compréhensions possibles à ce verset qui ne s'excluent pas l'une l'autre. La première étant que Dieu permettra à David de quitter ce lieu souterrain, le Sheol, lors du jugement et le fera entrer dans le paradis. La seconde étant que Dieu le délivre de l'adversité à laquelle il fait face. Mais quoi qu'il en soit, David reconnaît là que Dieu délivre. Ce qui nous pousse à reconnaître en Dieu celui qui nous délivre de l'adversité. Et là encore, préservons-nous de penser que nous ne ferons face à aucun problème ou que Dieu nous délivrera de chaque situation telle que la maladie. David parle bien de son âme, vous vous rappelez ? Son être intérieur. Ce qui suggère que Dieu délivre son être intérieur de la souffrance de la situation. Notre être matériel éprouve parfois encore la souffrance, mais nous pouvons demander à Dieu de nous donner, malgré tout, sa joie et sa paix, pour qu'il délivre notre être intérieur. Lorsque je lis ou lorsque j'entends les témoignages de femmes et d'hommes de Dieu qui ont souffert et qui malgré tout étaient heureux, je vois là cet état de grâce que Dieu permet au travers des difficultés et des épreuves de la vie. Aspirons à vivre cela, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes appelés à faire face. Marie Durand est née en 1711. Elle a vécu dans le sud de la France à une époque où les protestants étaient persécutés. Son frère, Pierre Durand, était un pasteur du désert. Il a été exécuté à Montpellier en 1732. Marie, elle, a été emprisonnée en 1730 à l'âge de 18 ans. Elle restera 38 ans en prison, dans la tour de Constance près de Montpellier. Marie Durand est morte 8 ans après sa sortie, si bien que quand on regarde, elle aura passé plus de temps en prison que libre. Malgré son emprisonnement, elle n'a pas renié sa foi, bien au contraire. Elle a entretenu une correspondance avec l'extérieur. Elle n'a pas cessé d'encourager ses codétenus. Si un jour vous visitez la tour de Constance, vous verrez le mot « régister » gravé dans la pierre, ce qui signifie en patois « résister ». Dieu accompagne et prend soin de notre être intérieur, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous arrivons au verset 14. « Ô Dieu, des arrogants s'attaquent à moi. Une bande d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. » Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, que ceux qui me détestent le voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Les arrogants. Il se trouve que certaines traductions ont les orgueilleux. Ce sont ceux qui veulent vivre indépendamment de Dieu. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Ce sont des hommes qui ne partagent pas ce que David vit avec Dieu. Des personnes qui ne vivent pas selon les principes et les préceptes que David vit avec Dieu. Ils ne suivent pas les voies que David veut suivre lorsqu'il demande à Dieu de l'enseigner afin de marcher dans la vérité. Et face à de tels hommes, dans une situation qui est extrêmement difficile, on le sent dans la détresse de David, David se remémore qui est Dieu. Et pourquoi est-ce que je dis que David se remémore qui est Dieu? Parce qu'il dit dans sa prière, « Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Cette phrase peut-être nous dit quelque chose. C'est les mots exacts que l'Éternel utilise pour se décrire lui-même quand il parle à Moïse en Exode chapitre 34, verset 6. Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Est-ce qu'on a conscience que dans les moments qui sont difficiles, on a besoin, tout comme David, de se rattacher à ce Dieu que l'on connaît. Lorsque les moments sont difficiles, ça n'est pas le moment de partir sur de la théologie étrange avec des personnes que l'on ne connaît pas, mais simplement de se rattacher à la parole de Dieu et de se rappeler de ce Dieu que nous connaissons, qui s'est déjà révélé. David se rattache au Dieu de ses pères, ce Dieu qui ne change pas. Ça nous a été rappelé pendant la présidence aujourd'hui. Et David l'appelle à lui faire grâce. Ici, quand il demande de faire grâce, ça fait encore écho au verset 3 qu'on a déjà vu. « Fais-moi grâce ». Là aussi, il se place à nouveau en serviteur, comme dans la première partie. Et il dit « Sauve le fils de ta servante ». C'est intéressant parce que les esclaves qui étaient nés dans la maison de leur maître s'attendaient à avoir davantage d'attention qu'un esclave qui était acheté ou qui venait de l'extérieur. David se place ici comme soumis à Dieu, et ceci de génération en génération. Et au risque de vous frustrer, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais cette notion de génération a vraiment une importance dans l'Ancien Testament. Et là, on voit David qui demande quoi ? Il demande un signe. Un signe qui rendra honteux ses ennemis. Je ne sais pas si lorsqu'il y a vraiment quelqu'un à qui vous êtes en froid et qui vous met dans une situation de détresse, je ne sais pas si tout ce que vous demandez, c'est la honte. Est-ce que vous demandez simplement qu'il éprouve de la honte ? David ne demande pas à ce que ses ennemis meurent, ne demande pas à ce que Dieu les écrase, mais demande un signe. Il demande simplement à ce qu'au final, par ce signe, Dieu se révèle à ses arrogants et ses orgueilleux, et qu'au final, la gloire revienne à Dieu. C'est dans la lignée de cette notion de « toutes les nations t'honoreront ». Dans nos prières, au milieu de l'épreuve, lorsque nous demandons la grâce de Dieu, demandons aussi à ce que Dieu, par ce qu'il permettra et par les moyens qui sont les siens, soit glorifié. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui doit être fondamental pour nous. Quelle que soit la façon dont Dieu va agir, prions qu'il soit glorifié dans son action. Laissons Dieu œuvrer dans les moments de difficulté pour que ça soit un témoignage pour toutes les personnes autour de nous que Dieu est grand et que ça soit sa gloire qui soit mise en avant. Prions-le humblement d'agir et de faire grâce. Faisons-lui confiance. Demandons-lui de réjouir nos cœurs, notre être intérieur et de révéler sa gloire par la façon dont il répondra. Car à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.